nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, l'imagerie dans le milieu médical existe depuis de nombreuses années. Radiographie, IRM, scintigraphie sont devenus des outils médicaux courants. Mais prochainement, grâce à de nouvelles techniques d'imagerie biophotonique par bioluminescence et fluorescence, les médecins et chirurgiens pourront visualiser complètement une tumeur, par exemple, dans un tissu mou, par le biais du marquage fluorescent qui fait ressortir la grosseur à l'image. Et on imagine déjà utiliser cette technique dans le cancer du sein et du côlon. L'imagerie par bioluminescence permettra également de tracer le chemin d'un médicament dans l'organisme humain. Et de là, on imagine également que de nouvelles molécules à visée thérapeutique seront développées. Avant d'en venir à l'homme, ces nouvelles techniques d'imagerie sont testées sur l'animal. Des animaux de laboratoire qui, de manière générale, suscitent souvent la polémique ou du moins la gêne, car c'est au prix de leur vie que nous apprenons à mieux connaître et traiter nos maladies. Mais aujourd'hui, ces techniques d'imagerie appliquées chez l'animal pourraient bien changer les choses, car moins invasives. Pour parler avec nous de cette révolution technologique utilisée en test chez l'animal et prochainement appliquée chez l'homme, je reçois dans cette nouvelle émission le docteur Alain Lepape. Alain Lepape, bonjour.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur scientifique du Centre d'imagerie du petit animal à Orléans et coordinateur des plateformes d'imagerie préclinique du cancéropôle Grand Ouest. Avant d'en venir à l'aspect de la recherche médicale, quelques mots sur les animaux de laboratoire qui sont utilisés dans le cadre de l'imagerie. Ce sont, j'imagine, essentiellement de petits animaux, des souris, des rats, des lapins, et qui, grâce à cette technique d'imagerie, ne nécessitent plus forcément de sacrifice animal. Alain Lepape.
Eh bien, effectivement, ces techniques d'imagerie qui n'étaient pas disponibles dans les ressources de l'imagerie médicale, telles que les scanners, les IRM, les ultrasons, qui sont applicables désormais en routine pour l'exploration du petit animal, eh bien, ces techniques de biophotonique, la bioluminescence et la fluorescence, ont été initialement développées spécifiquement pour explorer les tout petits animaux, en particulier les souris modèles de maladies humaines, qui sont indispensables aussi bien pour la recherche biomédicale que pour la découverte et le développement des nouveaux médicaments. Et donc, ces techniques de biophotonique sont particulièrement importantes car elles permettent de donner une dimension particulièrement éthique à l'expérimentation sur ces animaux, puisqu'elles sont strictement non-invasives et qu'elles vont permettre d'obtenir des images moléculaires ou fonctionnelles sans aucune intervention sur l'animal lui-même, donc en préservant à la fois des vies animales et en évitant tout sacrifice ou tout acte invasif et potentiellement traumatique.
Et en limitant les douleurs, j'imagine.
En limitant les douleurs de l'examen d'imagerie proprement dit, mais bien entendu, on tient compte aussi de la douleur potentielle qui serait issue de la maladie qu'on étudie chez l'animal. Mais ça, c'est une considération qui est prise en compte systématiquement à partir du moment où on envisage un protocole d'étude chez l'animal.
Comment passer de l'échelle d'une souris à l'échelle de l'homme? On passe de 20 grammes à 70 kilos en moyenne. J'imagine que ça ne se fait pas aussi facilement qu'on pourrait le penser.
Alors, ça a suscité beaucoup de développements technologiques spécifiques, qu'on appelle des ruptures technologiques, qui permettent de repousser les limites technologiques, en particulier pour préserver à la fois la sensibilité et la résolution. Donc, la plupart des techniques d'imagerie médicale ces 10 dernières années ont subi donc de grosses évolutions technologiques pour rendre possible chez la souris un examen par ces techniques avec les mêmes performances comparatives que le même examen réalisé sur un homme de 60-70 kilos. Et ces techniques de biophotonique, elles, qui n'existaient pas dans l'imagerie médicale, elles ont été conçues pour répondre aux besoins de l'exploration des souris, en particulier pour l'imagerie d'expression des gènes et pour l'imagerie de la biodistribution de molécules et potentiellement thérapeutiques à l'intérieur du corps humain. Et ces technologies d'imagerie biophotonique, elles sont caractérisées par une absorption très importante par les tissus, en particulier par l'hémoglobine du sang. Et le potentiel, en fait, de traverser des tissus biologiques vivants par ces photons se situe à peu près 5 à 10 cm maximum. Ce qui explique qu'une souris peut être investiguée corps entier et que lorsque l'on va transférer en imagerie médicale ces technologies, eh bien, elles vont permettre des explorations loco-régionales minimalement invasives. Puisqu'en fait, même chez l'homme, on ne pourra jamais explorer plus de 5 cm d'épaisseur, 5 à 10 cm grand maximum d'épaisseur de tissu vivant.
Donc c'est destiné à visualiser de potentielles tumeurs, pour reprendre cet exemple, des tumeurs qui sont relativement peu profondes.
Alors, où ce seront des tumeurs profondes qu'on va pouvoir explorer depuis la surface cutanée ? Ou bien il faudra s'approcher de ces foyers pathologiques. Et s'approcher de ces foyers pathologiques, c'est tout ce qui peut être utilisé par fibroscopie, c'est-à-dire l'ORL, c'est l'œsophage, l'estomac, le côlon, et puis la célioscopie telle qu'elle est utilisée en chirurgie.
Alors, je le disais en préambule, il existe déjà des systèmes d'imagerie, la radiographie, l'IRM, mais également la scintigraphie. Qu'est-ce que l'imagerie biophotonique apporte de plus par rapport à la scintigraphie qui existe et qui est déjà utilisée ?
Chaque technique a des avantages, des inconvénients et des champs d'application bien définis. La scintigraphie, elle a l'énorme avantage d'être applicable corps entier et de pouvoir, par exemple, en cancérologie, faire un bilan de dissémination dans l'organisme, tout le corps. Et donc, ça, c'est une ressource absolument incontournable pour le bilan, le diagnostic, le bilan d'extension et le suivi thérapeutique d'un patient. Par contre, les techniques de biophotonique, et en particulier la fluorescence infrarouge, vont s'appliquer dans un territoire bien défini pour lesquels elles vont contribuer soit au diagnostic différentiel, on en reparlera plus tard parce que ça c'est un champ d'application considérable, en particulier pour les microfoyers suspects dans le sein, et puis pour guider le chirurgien au cours de son intervention.
Donc, c'est un outil supplémentaire, par exemple, pour les chirurgiens, pour essayer de visualiser cette tumeur et faire une exérèse au plus proche d'une tumeur.
Tout à fait. C'est en complément des examens et des modalités d'imagerie qui ont permis de poser le diagnostic, de pouvoir faire une exploration très sensible au niveau loco-régional, soit pour affiner un diagnostic, on pourra en parler pour les tumeurs du sein, soit effectivement pour optimiser l'acte chirurgical en oncochirurgie.
Comme vous le savez sans doute, les journalistes aiment beaucoup les images très parlantes. Il y a un de vos confrères, Jacques Maresco, qui est très connu, qui est un grand chirurgien, qui a développé une université virtuelle de chirurgie et qui forme des étudiants notamment à la réalité augmentée, donc qui consiste à superposer sur une image caméra, par exemple, dans le cas d'une coloscopie, fibroscopie, de faire coller à cette image une image d'imagerie, justement, avec peut-être, pourquoi pas, scintigraphie ou fluorescence infrarouge pour visualiser au plus près cette zone. Est-ce que, justement, ce que vous nous expliquez depuis le début de cette émission est utile pour ces chirurgiens dans le cadre de cette université virtuelle de chirurgie, Alain Lepape ?
Alors, l'imagerie multimodalité, telle qu'on l'appelle, c'est la combinaison de différentes modalités d'imagerie pour lesquelles on va superposer les images afin de pouvoir bénéficier de la complémentarité des approches. Ça, c'est quand on fait de l'imagerie médicale classique. Maintenant, effectivement, lorsque un chirurgien va mettre en œuvre en temps réel une modalité d'imagerie pour guider son geste, il est évident que s'il doit à chaque fois porter son regard du champ opératoire vers un écran d'ordinateur qui présente éventuellement la superposition de l'image réelle obtenue avec une caméra conventionnelle et de l'image moléculaire obtenue par exemple par fluorescence infrarouge, on perd de l'amélioration qu'on a à attendre au niveau des performances. Donc actuellement, les systèmes sont opérationnels pour faire de l'imagerie préopératoire en projetant les images sur un écran d'ordinateur. Ça va permettre de valider le concept et de démarrer l'exploitation de cette modalité. Mais in fine, l'opérationnalité maximum sera obtenue effectivement en projetant sur le champ visuel du chirurgien les images fluorescence obtenues qui permettent de guider son acte en temps réel.
Et des prises de vue 3D, j'imagine?
Non. Je veux dire, ce type d'imagerie, dans l'application qu'on peut imaginer sur les 3-4 ans qui viennent en oncochirurgie, on ne sera pas à l'imagerie 3D, car ces modalités d'imagerie en fluorescence infrarouge ne se prêtent pas facilement à l'imagerie 3D chez l'homme. Actuellement, c'est même pas encore au point, l'imagerie 3D en fluorescence infrarouge, enfin c'est pas au point, avec de grandes performances déjà chez la souris. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire.
Précédemment, vous nous avez parlé du diagnostic différentiel. Est-ce que j'aimerais que vous nous disiez deux mots sur ce que vous appelez le diagnostic différentiel ?
Le diagnostic différentiel, c'est lorsque l'on a trouvé, par exemple, par mammographie, dans un sein, un foyer de toute petite taille, par exemple, une taille millimétrique, par la mammographie, éventuellement confirmée par la mammo-IRM, se pose le problème très souvent du caractère malin ou non malin du foyer. Et donc, le diagnostic différentiel, ça va être de pouvoir attribuer par une analyse ou un examen de grande sensibilité, pouvoir signer si c'est tumoral ou non c'est tumoral. Donc la démarche la plus usuelle, c'est de faire une petite biopsie qui va permettre au microscope de s'assurer qu'il y a ou qu'il n'y a pas des cellules tumorales. Et c'est comme ça qu'on passera d'un micro-kyste calcifié à une microtumeur. En alternative à la biopsie, c'est là que la fluorescence infrarouge, la mammofluorescence, est susceptible d'être très contributive pour le diagnostic différentiel des petits foyers suspects au niveau du sein qui continueront à être détectés en première intention par la mammographie. Il existe en médecine nucléaire des sondes d'imagerie moléculaire qui reconnaissent spécifiquement une fonction, un type de cellule tumorale, et ces molécules, on les appelle des traceurs, et elles sont marquées par un isotope radioactif pour faire l'imagerie à l'intérieur du corps. En fluorescence, dans le proche infrarouge, on s'inspire strictement du même concept. On a une molécule traceuse qui sera injectée par voie intraveineuse 24 heures avant au sujet, et cette molécule traceuse d'une fonction qui va établir la spécificité de la liaison à la tumeur et qui ne se lierait pas à un microkyste, elle va être marquée, non plus par un isotope radioactif, mais par un fluorochrome qui émet dans l'infrarouge. Et donc, à partir du moment où on va choisir judicieusement la molécule traceuse, on va pouvoir avoir une signature du caractère tumoral ou non tumoral du foyer.
Donc va ressortir quelque chose de tumoral là où les kystes, par exemple, qui sont des calcifications, ne seraient pas ressortis à l'image.
Voilà, tout à fait, vous avez tout compris. On va utiliser des molécules qui reconnaissent spécifiquement soit des biomarqueurs qui sont exprimés par les cellules tumorales ou bien qui sont exprimés par les vaisseaux de néangiogénèse, c'est-à-dire les vaisseaux qui sont indispensables au développement d'une microtumeur. Et en particulier, ces molécules, ça peut être soit des anticorps monoclonaux spécifiques de biomarqueurs tumoraux, soit de ciblage d'intégrines qui sont exprimées soit par certains types de tumeurs et toujours par les vaisseaux de néangiogénèse. Et donc, en utilisant des agents de ciblage de ces intégrines, qui sont dérivés des peptides RGD et fluorescents, on va pouvoir voir au niveau d'un microfoyer suspect s'il y a concentration de ce traceur. Et s'il y a concentration, eh bien, c'est qu'il y a expression de molécules qui ne peuvent être exprimées que par un environnement tumoral.
Alors ça sous-entend en vous écoutant que peut-être aujourd'hui il y a beaucoup d'opérations, prenons cet exemple du cancer du sein, des opérations où après on se rend compte que ce sont des calcifications, des microkystes qui ne sont pas forcément des tumeurs malignes.
Normalement, on n'intervient pas par chimiothérapie ou par intervention chirurgicale sur un foyer suspect dans le sein sans avoir fait au préalable une biopsie minimalement invasive. Donc, pour un certain nombre de situations de ce type, l'influorescence infrarouge permettra le diagnostic différentiel de manière totalement non-invasive.
Vous parlez au futur, alors quand est-ce que cette technique pourra être mise en place ?
Alors, la mammofluorescence dans l'infrarouge fait l'objet actuellement dans le monde d'évaluations cliniques. Il y a 2 ou 3 appareils développés par des compagnies différentes pour lesquelles il y a déjà eu plusieurs centaines de patientes pour lesquelles les examens par mammographie classique, éventuellement mammographie IRM et fluorescence ont été confrontés. Donc on est au stade non pas de la conception des appareils, mais de l'évaluation multicentrique, mais encore au stade de la recherche clinique, et pas de l'implantation pour des études multicentriques de soins. Mais on peut considérer qu'on est là à l'émergence d'une nouvelle modalité d'imagerie qui devrait trouver son domaine d'application en routine à 3 ans, à peu près. Pour faire ce type d'imagerie, il faut la machine, l'imageur. Donc ça fait l'objet de développements très avancés. Mais il faut aussi les agents d'imagerie qui doivent être injectés éventuellement quelques heures ou une journée avant de réaliser cet examen. Et donc là, on se trouve dans la situation où différentes molécules d'imagerie, de traceurs, sont actuellement en cours d'investigation pour les études de sécurité qui permettront d'obtenir leur autorisation de mise sur le marché. Mais ça, ce sont des études qui prennent du temps, vous savez, dans la chaîne de développement d'un médicament, et c'est un médicament, en fait, c'est un médicament à usage diagnostique. Eh bien, dans le long processus qui permet d'obtenir une AMM, il y a un temps incompressible qui correspond aux études de sécurité et de toxicité. Et donc, sur les 3 ans que j'évoque, il y en a bien, effectivement, au moins 2 qui ne dépendent que de ces études de sécurité précliniques qui sont actuellement en cours.
Alors, on arrive au terme de notre émission. On s'est beaucoup consacré justement à la manière dont on peut cibler des tumeurs. Mais il y a également, parlons-en quand même rapidement, la possibilité de tracer un médicament pour voir comment il va être intégré dans l'organisme. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur ce produit qui permettrait donc de tracer le cheminement d'un médicament.
Alors, lorsqu'un nouveau médicament, ou un médicament pas nouveau d'ailleurs, est administré à l'organisme, il ne peut exercer le plus souvent son action qu'en ayant ciblé la lésion. Et le plus souvent, il doit y avoir une concentration effective du médicament dans la lésion pour qu'il exerce son effet. Donc, on va pouvoir faire des études de biodistribution et de ciblage avec des nouveaux médicaments en les marquant, soit avec des isotopes radioactifs et en utilisant les techniques d'imagerie classiques de la médecine et en particulier de ce qu'on appelle la médecine nucléaire, c'est-à-dire la scintigraphie ou la tomographie d'émission de positons. Mais chez le petit animal ou pour des applications loco-régionales, marquer ce médicament avec un fluorochrome infrarouge permet le même type d'imagerie. Sauf qu'à la différence des techniques radioisotopiques, on ne pourra pas avoir un bilan quantitatif corps entier. Mais on pourra, par la fluorescence infrarouge, démontrer formellement que la cible pathologique est bien atteinte par le médicament en question.
Alors, ne risque-t-on pas d'avoir peut-être de mauvaises surprises avec des médicaments déjà sur le marché où, en utilisant justement ce marquage, on se rendrait compte que la cible initialement visée par le médicament ne serait pas du tout ciblée au final?
Ah, ça, c'est le... Je veux dire, vous savez, dans le développement de nouveaux médicaments, il y a 2 stratégies. La première stratégie, c'est d'inventer de nouvelles molécules les plus actives possibles. Et maintenant, l'imagerie de leur biodistribution et la démonstration du ciblage de la lésion fait partie, par imagerie, fait partie intégrante de la démarche d'innovation et de développement. Et puis, l'autre stratégie, c'est de faire mieux que ce que l'on peut faire traditionnellement avec des molécules qui sont utilisées depuis des décennies et qui ont fait leurs preuves. Et en les délivrant mieux dans la cible, on peut améliorer comme ça leur potentiel thérapeutique. Et par exemple, la vectorisation, les nanoparticules sont un bon exemple. Le ciblage et la vectorisation sont des stratégies qui permettent d'augmenter le rendement de transfert à la cible deux principes actifs qui peuvent être des anciens principes actifs, qui ont quand même fait leurs preuves, mais dont on va améliorer comme ça le potentiel thérapeutique. Et l'imagerie in vivo est la ressource qui est, stratégique pour les recherches de ce type et optimiser les formulations qui vont permettre d'être les plus efficaces pour délivrer ce médicament à la cible.
Alors pour terminer l'émission, en quelques mots, j'imagine que c'est une véritable révolution technologique et médicale que cette imagerie biophotonique.
Oui, c'était la seule technologie d'imagerie qui n'était pas issue de la médecine, qui a été développée donc pour les modèles animaux, l'exploration des modèles animaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en moins de 5 à 6 ans, cette modalité d'imagerie développée que pour les souris, donc qui pouvait avoir un champ d'application potentiel quand même assez restreint, va s'appliquer à de nombreux domaines de la médecine, que ce soit pour le diagnostic différentiel, mais également pour la chirurgie, enfin pour l'imagerie interventionnelle en cours de chirurgie. On est en droit d'imaginer que ça va faire évoluer considérablement un certain nombre de pratiques médicales à très court terme.
Eh bien, merci, docteur Alain Pape, d'être venu nous parler de cette nouvelle imagerie qui sera peut-être donc appliquée d'ici 3-4 ans. Merci à vous et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci.
Merci beaucoup.